d'emploi. Mode d'emploi.
Bonjour, vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi format secret de fabrication, un format particulier où des inspecteurs du travail, des agents de Pôle emploi parlent de la vie dans les entreprises, des résistances et de la résistance notamment à la chosification des salariés dans la relation de travail. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux choses, mais surtout, nous allons parler de la manière dont les syndicats du spectacle, les syndicats des intermittents et les précaires ont pu avoir raison de la convention 2014 de l'UNEDIC. Pourquoi il fallait absolument abattre cette convention et s'en débarrasser, et comment on a pu opérer. Voilà. Alors donc j'ai avec moi Denis donc de la CGT Spectacle.
Bonjour.
Voilà. Et nous allons avoir au téléphone ultérieurement Hélène du collectif Les Matermittentes qui nous expliquera aussi comment son collectif s'est constitué et comment ils ont participé à cette bagarre pour éliminer la convention 2014 de l'UNEDIC. Mais on va commencer par une petite séquence qui nous plaît bien sur cette émission, puisque animée par des inspecteurs du travail, nous avons eu le malheur de voir notre ancien directeur général du travail, Jean-Denis Combrexel, prendre du grade et devenir conseiller d'État aux affaires sociales. Tout à fait immérité. Et donc, la première séquence de cette émission, c'est le Combrexel bashing. Donc, le Combrexel bashing, c'est chaque mois, nous expliquons pourquoi M. Combrexel se prenait systématiquement les pieds dans le tapis quand il était directeur général du travail et pourquoi c'est forcément la personne la moins indiquée pour réformer aujourd'hui le code du travail. C'est qu'il, déjà à l'époque, il n'y comprenait rien du tout. Alors, aujourd'hui, un point particulier, donc comment est-ce que M. Combrexel a cru que c'était faire le travail de l'inspection que de nous envoyer faire des contrôles conjoints avec la police pour contrôler les travailleurs sans papier? Et comment il entendait s'y prendre et comment au final, ben, c'était pas ça. Alors, il faut savoir que l'inspection du travail a des compétences en matière de contrôle des étrangers puisqu'on nous a donné ce qu'on n'avait jamais demandé. Des pouvoirs de contrôle sur les étrangers sans titre et notamment le pouvoir de contrôler les papiers et éventuellement de dresser un procès-verbal. Alors théoriquement contre l'employeur, on va voir que c'est forcément ça implique aussi la victime. Alors bon, jusqu'à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, donc Nicolas Sarkozy, je pense que tout le monde, ça dit quelque chose à tout le monde. Oui, bon, il a commencé,
ouais.
Hein, c'est ça?
Ouais, ouais. On a
entendu parler de ce mec. Alors peut-être parce que il est passé d'abord ministre de l'Intérieur et qu'ensuite il a été président de la République, et on voit qu'il a eu une certaine constance, c'est que lui il confond le droit du travail et le droit des étrangers. Alors, par quoi ça se traduit? Bah, ça se traduit tout simplement parce que du temps qu'il était déjà ministre de l'Intérieur, il a pensé que c'était une bonne idée d'utiliser les pouvoirs de l'inspection, notamment le pouvoir de pénétrer dans les entreprises, pour permettre à la police de faire son travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est servi de nous comme des ouvre-boîtes. C'est quoi un ouvre-boîte? Ben, il faut savoir que la convention 81, qui est la convention qui met en place l'inspection du travail dans tous les pays signataires, la France est signataire, la convention 81 nous permet de pénétrer dans les entreprises de jour comme de nuit, dès qu'il y a des salariés, dès qu'on constate que des salariés sont employés dans l'entreprise. Et ça, on peut demander, on n'a aucune demande à fournir, on peut pénétrer, voilà. Et les policiers qui, eux, sont tenus par des réquisitions, qui sont obligés de demander au parquet, de leur autoriser l'entrée dans l'entreprise, ils ne peuvent pas faire de cette manière-là. Et donc, ils comptaient se servir de nous pour entrer dans l'entreprise, et ensuite, rafler. Et évidemment, nous, on n'était pas très, très, très favorables à ça. Et c'est pourquoi on a eu droit, année après année, mais d'une manière assez continue, à des circulaires. Des circulaires nous disant, voilà comment vous allez organiser votre entrée dans l'entreprise, accompagnée par la police, et que vous allez contrôler ensemble, main dans la main, les titres des étrangers qui travaillent. Alors, on s'est opposé, mais on a eu droit à une circulaire qui nous disait « Non, non, il faut le faire, il faut le faire. » Alors, je vous énumère ça, c'est un peu fastidieux, mais c'est intéressant parce que en 2006, donc, on a eu droit à une circulaire donc du ministère de l'Emploi, qui est notre ministère de tutelle, nous disant « Oui, il faut qu'on se positionne dans la lutte contre l'emploi d'étrangers sans titre de travail et le travail dissimulé. » Déjà, confusion, étrangers sans titre, travail dissimulé, c'est pas la même chose. Alors, mettons que si je dis travail dissimulé, à quoi tu penses, Denis ?
Bah, je pense à ce qu'on appelle vulgairement et improprement le travail au noir, c'est-à-dire des employeurs qui déclarent pas leurs salariés, qui pour ne pas déclarer les exemptions du travail, ne pas déclarer les droits à la Sécu et les exploiter encore plus.
Ouais, t'as révisé, vas-y.
Bah, en tant que syndicaliste, c'est quand même un peu le béaba.
D'accord, ok. Bon, bah effectivement, c'est ça. Le travail dissimulé, c'est ne pas déclarer son salarié. D'accord, mais alors le travail illégal des étrangers, c'est une quoi comme catégorie ?
Alors, le travail illégal, il y a deux choses. Ça dépend si on parle du fait que les gens sont sans papier parce qu'on leur a refusé un titre de séjour. Mm-hmm. Et ça, ils sont illégalement au regard d'une loi qui est par ailleurs, évidemment, que nous on conteste. Mm. Mais par ailleurs, faire un employeur, il est censé vérifier que la personne a des papiers pour le faire travailler.
C'est ça.
Voilà. Et donc, quand il ne l'a pas fait, on condamne celui qui en est la victime, le salarié.
C'est ça. Et donc, en plus, pour nous, c'est une catégorie qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi forcément le travail des étrangers est illégal. On développera dans d'autres émissions cette question-là. En tout cas, on a voulu faire un amalgame entre un travail dissimulé, c'est-à-dire qui vraiment fraude la sécurité sociale, fraude les impôts, et qui donc est un préjudice là.
Et les droits de la personne concernée.
Et les droits de la personne concernée, et qui est un préjudice à l'intérêt général et à l'intérêt du salarié, et l'emploi d'étrangers, qu'on a dit, bah, c'est la même chose, c'est pareil. Et pourtant, on sait que des fois, l'étranger est déclaré, en fait. C'est le patron des...
La plupart du temps.
Alors, et là, on a fait le mélange et on a dit, vous allez faire ça, et puis comme ça, on va régler le problème. Et la focale a été mise dès cette circulaire, donc du 20 décembre 2006, sur la lutte contre les réseaux d'immigration. Ce qui était vraiment pas tellement notre sujet, en fait. Et donc, circulaire qui sort, protestation dans l'inspection, on dit on le fera pas. Et il dit mais si, vous êtes obligé de le faire. Donc on fait un recours. Donc la FSU, notamment la FSU du ministère, qui était un peu en pointe sur cette question-là, elle fait un recours au Bureau international du travail. Alors Bureau international du travail, elle est bienveillante, c'est une institution qui est bienveillante, qui protège normalement nos prérogatives, mais qui prend un peu de temps à répondre. Entre-temps, une nouvelle circulaire tombe en 2008. Qui dit à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, évidemment, en 2008, Nicolas Sarkozy, lui aussi, il a pris du grade. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est devenu président de la République. Et sa première décision, ça a été de mettre en place un ministère de l'immigration. Or, cette circulaire nous provient du ministère de l'immigration, qui, en plus, l'arrêté qui le met en place, met l'inspection du travail à disposition du ministère de l'immigration. On se dit, non, on est travail, nous, ministère du travail, s'il vous plaît. Ils n'entendent rien. Et c'est là que, en fait, systématiquement, après une circulaire signée du ministre de l'Immigration, Jean-Denis Combrexelle nous envoie une circulaire interne pour nous dire « Si, tout ça est légal. Faites attention, évidemment, que le salarié soit rempli de ses droits, mais vous devez coopérer. » Le problème, c'est que, en fait, les quelques collègues qui ont fait des contrôles avec la police se sont aperçus qu'en fait, le but de la police était entièrement différent et que, de toute façon, c'est très difficile de faire valoir les droits d'un salarié quand il monte dans un charter ou quand il est en centre de rétention. Donc, on n'est pas dupe, on continue à protester. Deuxième recours de la FSU, boum. Et le BIT, cette fois-ci, envoie un message en disant « ça ne marche pas, votre truc. Il y a un problème, il faut que vous précisiez comment vous allez faire respecter les droits. » Jean-Denis Combrexelle, fidèle du patronat en fait, mais bon, Jean-Denis Combrexelle se fend d'une deuxième circulaire interne nous disant « vous vérifierez que les droits du salarié sont bien remplis. » Mais il précise pas tellement comment. Et ça continue comme ça, et au fur et à mesure, ça se transforme. C'est-à-dire que Darcos, ministre du Travail à l'époque, nous impose encore des circulaires disant que bah, non, il faut augmenter les objectifs de contrôle des étrangers dans le cadre général du contrôle du travail légal. Et donc, boum, encore une circulaire qui tombe, encore une rebelote de Combrexelle qui nous refait encore un sketch sur « vous allez pouvoir faire une chose et son contraire, mais allez-y, continuez ». Et là, la troisième saisine du BIT est la bonne, parce que le BIT, à ce moment-là, donc rappelle, et j'en finirai là, rappelle au ministère du Travail français, qui normalement doit rapporter, fidèlement ce qui se passe en France auprès du BIT, il leur rappelle que non, décidément, les contrôles conjoints, et ça j'insiste, les contrôles conjoints avec les forces de police entrent en contradiction avec les missions de l'inspection du travail et qu'il décourage, tant qu'une procédure très claire de validation des droits du salarié ne sera pas en place, il décourage la poursuite de ces contrôles conjoints. Donc on a ici Monsieur Combrexelle, j'insiste un peu sur le bonhomme, qui benoîtement s'est plié aux injonctions de ministères qui n'étaient pas les siens pour appliquer des droits qu'il n'était pas chargé d'appliquer, hein, et au final a poursuivi comme ça jusqu'à ce que son organisme de tutelle, le Bureau international du travail, lui dise stop, ça suffit, arrêtez vos bêtises, il y a des missions qui sont celles de l'inspection du travail qui n'ont rien à voir avec celles de la police et qui n'ont rien à voir avec le contrôle des étrangers. Donc il a fallu quand même que le BIT s'y reprenne à trois fois, hein, par trois injonctions successives, pour que les choses soient clairement dites et que le message soit un peu compris. Alors la conséquence de ça, c'est que ils n'ont rien changé du tout, hein. C'est-à-dire que le CE, lui, saisit de son côté, a tout validé en disant « oui, tout ça c'est normal, les décrets, les circulaires, tout ça c'est parfait, il n'y a pas de problème ». Donc théoriquement, on est encore sous l'emprise de la loi. Et avant d'aborder la question de la convention UNEDIC, je voulais juste dire une chose, c'est-à-dire que le droit, c'est aussi quelque chose, c'est aussi du rapport de force, hein, parce que maintenant nous refusons toujours les contrôles conjoints, nous savons que nous avons notre autorité de tutelle derrière nous, et donc ça ne marche pas leur truc, et donc c'est ça que ça nous permet, nous, de nous opposer, parce que leur soupe, on n'en veut pas. Eh oui, donc la résistance, ça vient toujours de la rue. Bon, voilà, donc nous sommes sur Radio Fréquence Paris Pluriel, format secret de fabrication. Donc vous pouvez nous écouter sur 106.3 FM ou sur http://rfpp.net. Voilà, alors nous allons poursuivre donc après notre petite séquence de Combrexelle bashing pour montrer à quel point ce type est un nul. Bon, voilà, ça c'est dit. Et maintenant, nous allons poursuivre avec la question de la convention UNEDIC 2014. Et là, je me tourne vers Denis pour lui demander, en fait, Quesaco, convention UNEDIC, ça sert à quoi ?
Ouais, juste une petite précision. Donc, moi, je suis de la CGT Spectacle, mais par ailleurs, je siège à l'UNEDIC pour la CGT au niveau confédéral.
D'accord.
Donc, c'est le recours. Alors, la convention UNEDIC, c'est un accord qui est pris par les syndicats de salariés, les syndicats de patrons, hein, le MEDEF en gros, et puis certains syndicats de salariés, puisque nous, la CGT, on n'a jamais signé d'accord assurance chômage, qui, par délégation du Code du Travail, du ministère du Travail, ont droit de négocier une convention qui détermine qui va être indemnisé parmi les chômeurs et comment.
Parce que le chômage, ce n'est pas un organisme d'État.
Non, voilà. Ça date de... Contrairement à ce qui était préconisé par le programme du Conseil national de la résistance,
d'accord,
le risque chômage n'a pas été considéré comme une branche de la sécurité sociale, à l'instar de la maladie, de l'accident du travail, de la famille et autres. C'est un truc à part. Mais pourtant, ça devrait être un service public.
D'accord. Donc, c'est régi par des accords.
Voilà. Il y a des accords, alors avec des durées très limitées. En général, jusqu'à présent, ils nous le faisaient tous les 3 ans, et maintenant, c'est carrément tous les 2 ans. Voire même, on serait pas surpris qu'ils nous fassent ça pour quelques mois. C'est-à-dire que, bon, bah, depuis quelques temps, c'est tous les 2 ans qu'on renégocie, globalement à la baisse, les droits à indemnisation de la partie des chômeurs qui est indemnisée, parce qu'il y en a de moins en moins qui sont indemnisés.
On est passé
en quelques années de 50% à 43% maintenant des chômeurs qui sont indemnisés par l'assurance chômage. Évidemment, il y a quelques-uns qui sont rattrapés par les minima sociaux et ce genre de choses, mais qui sont des fonds d'État. Donc les chômeurs indemnisés par la convention assurance chômage, ils sont 43%. C'est même un chiffre que l'UNEDIC s'efforce en général de plus faire apparaître.
Bah oui, c'est logique, c'est la honte.
Voilà. Et donc, la convention assurance chômage, bah, ça détermine, par exemple, dire à partir de combien de temps de travail on a le droit à une indemnisation chômage, dans quelles conditions, quel est le taux de remplacement. Et puis, évidemment, ça, c'est le cas le plus simple, mais il y a énormément c'est extrêmement complexe.
Ouais.
D'ailleurs, c'est extrêmement difficile. C'est comme toujours en matière de droit, c'est une question de l'accès au droit est pas facile, parce que pour comprendre la convention assurance chômage, il faut vraiment lire tous les petits caractères, quoi.
D'accord. C'est de l'assurance, quoi. C'est ça.
C'est une assurance chômage, et en même temps, nous, on dit que ça devrait être de la protection sociale. Donc, il y a une part proportionnelle au salaire, et puis il y a une part de minima et autres qui n'en sont pas vraiment parce qu'ils se retrouvent. On devrait avoir une allocation minimale. En réalité, par un système d'écrêtage, on a des gens qui se retrouvent avec des allocations de quelques euros par jour, ce qui est évidemment totalement insuffisant pour vivre.
D'accord. Alors, en plus, non seulement il y a une convention générale, mais en plus, il y a des années. C'est ça ?
Alors, oui, exactement. Il y a un certain nombre d'annexes. En fait, il y en a 11 qui prennent des cas particuliers. L'annexe 1, c'est l'annexe des journalistes. Il y a une annexe 4 pour les intérimaires. Et puis, il y a les annexes 8 et 10 qui concernent les techniciens et les artistes du spectacle vivant et cinéma audiovisuel.
Ce qu'on appelle les intermittents.
Voilà, c'est là qu'on appelle les intermittents du spectacle. Alors, intermittents du spectacle, ça veut dire des salariés qui travaillent de façon discontinue puisqu'ils ont des CDD sur un spectacle un jour, une semaine, par-ci, par-là, et que du coup, le régime, comme pour les intérimaires, mais il n'en reste plus grand-chose de particularité, c'est de prendre en compte le fait qu'il y a un travail discontinu qui est lié l'exercice des métiers du spectacle. Pas toujours, il y a aussi des permanents du spectacle, on l'oublie, mais il y a une bonne partie de professionnels intermittents du spectacle, que ce soit les artistes ou les techniciens.
D'accord. Donc eux, ils ont vraiment un travail... Comme on dit intermittent, c'est-à-dire qu'ils des fois ils sont au travail, des fois ils sont en recherche de travail, mais
c'est-à-dire que dans une règle qui est toujours pour l'instant la règle, mais que justement peut-être un certain Combrexel et d'autres voudraient faire péter, c'est de dire que normalement la règle dans le code du travail, c'est le CDI, c'est le contrat à durée indéterminée, puis il y a des exceptions pour remplacement, pour surcroît d'activité, pour différents et puis certains secteurs qui ont le CDD d'usage et en général dans le spectacle, c'est justifié même s'il y a des abus que l'on dénonce du côté de certains employeurs, c'est justifié parce que t'es embauché pour un spectacle depuis que le spectacle existe. On a des contrats, un film, et ce contrat a une durée déterminée qui est liée à l'objet, la création du film.
D'accord.
On ne demande pas ce que soit généralisé à tous les salariés.
Mais par contre, c'est clair que c'est ça. C'est-à-dire qu'une équipe se constitue en vue d'un projet. Voilà.
Et du coup, il y a un système d'assurance chômage qui a été créé, le premier pour les techniciens de cinéma a été créé en 64, si je dis pas de bêtises, et puis ça s'est étendu aux artistes, et depuis les années 80-90, le patronat considère que c'est à supprimer. Pourquoi ? Parce que c'était pas un régime qui était plus favorable, il était juste, il prenait en compte les particularités. Et sauf qu'au fur et à mesure que le chômage a augmenté, les droits à l'assurance chômage ont été considérablement abaissés. Dans les années 70, tu te retrouvais au chômage, tu avais 90% de ton salaire. Maintenant, c'est dans le meilleur des cas 57%.
D'accord.
Et les durées d'indemnisation ont été baissées, et on a inventé à un moment la dégressivité, et on a inventé des filières différentes pour plein de monde. Et donc, les annexes, on les a toutes plus ou moins sabrées. Celles qui ont le mieux résisté sont les annexes 8 et 10, parce qu'il y a eu des mobilisations plus fortes du côté intermittent du spectacle à différentes périodes, en 92, en 97, en 2003, où il y a quand même eu une forte baisse, et puis en 2014 et peut-être en 2016.
Bon, on va voir, effectivement. On va parler de ça. Mais alors, ça veut dire en fait que pour tordre le cou à une idée reçue, le régime des intermittents, il a juste mieux résisté pendant que la marée baissait tout ailleurs.
Ouais, il a moins baissé que les autres.
C'est ça.
Mais c'est, ce qui est un scandale, c'est que l'ensemble des chômeurs se voient retrouver, se retrouvent avec des droits considérablement réduits au fil du temps. Et donc, ce qui fait que, bah, voilà, il y en a plus d'un sur deux qui n'a pas d'indemnisation chômage à un certain temps. Et les autres qui ont une indemnisation soit très courte, soit très faible, et qui ne compensent pas du tout l'absence de salaire quand on est privé d'emploi.
D'accord. Donc, effectivement, donc, 2014, en prévision donc d'une convention 2014, s'ouvre un nouveau round de négociations.
Voilà, une convention qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2014. Donc du coup, c'était plusieurs mois en amont qu'il y avait des négociations. Forcément, il y a des aspects techniques, mais bon, la vraie question, c'est que le MEDEF exigeait qu'il y ait plusieurs milliards d'économies de fait et uniquement sur le dos des chômeurs, en précisant, comme souvent hein, sur la protection sociale, on nous dit bon, voilà, les cotisations ne suffisent pas à couvrir les prestations, mais il est hors de question pour le patronat d'augmenter les cotisations et notamment de cibler tous ceux qui abusent de la précarité, puisque maintenant le nombre de travailleurs qui arrivent à l'assurance chômage à la fin d'un CDD sont arrivés à plus d'un sur deux.
D'accord.
On est beaucoup plus souvent au chômage à la suite d'un CDD, de petits boulots, qu'à la fin d'un licenciement.
D'accord. Oui, mais il faut savoir que 80% des embauches aujourd'hui se font en CDD ou en intérim.
Oui.
Donc forcément, 80% des sorties. Ces 80% donnent lieu à des sorties de travail qui donnent lieu à du chômage.
Eh ben oui, forcément. Et puis ou alors à une augmentation qui est très importante, qui est la catégorie des chômeurs qui cumulent des petits boulots, qui cumulent, le terme est impropre parce qu'on cumule la précarité, hein, mais qui oscille entre petits boulots, soit des temps partiels, soit des CDD et un peu de chômage, un système d'aller-retour en fait où tu te retrouves tout le temps un peu au chômage, un peu au travail, dans la précarité.
D'accord. Donc j'entends déjà le MEDEF dire « faisons preuve de pragmatisme et négocions ça, tout ça à la baisse ».
Et puis surtout en disant « on ne peut plus se permettre d'avoir un système aussi généreux ». Alors, ce qui est formidable, c'est que c'est eux qui ont organisé la précarité, qui ont organisé le recours massif à l'intérim, à des petits boulots, à des temps partiels, pour des personnes qui sont payées à l'heure. Derrière, on dit « ah ben non, mais les gens, ils optimisent, hein, on les voit bien, là, ils cherchent à… » Alors les intermittents, c'est les pires, ils ont des effets de comportement, ça c'est le grand truc qu'on nous sort régulièrement, ils essayent absolument de se débrouiller pour avoir juste ce qu'il faut comme travail pour ensuite vivre aux frais de la princesse de l'assurance chômage. Donc ça, c'est pas possible, faut les inciter à retrouver un travail. Enfin, faudrait peut-être déjà commencer par en créer du boulot.
Oui, voilà. Ça c'est sûr qu'ils nous promettent des millions d'embauches.
Oui, mais pas tout de suite, ils ont dit que c'était pas possible tout de suite, faut d'abord qu'ils restaurent leur marge.
Oui, d'accord, donc faut d'abord leur donner beaucoup beaucoup d'argent.
Voilà, et ensuite, faut qu'ils ont restauré leur marge, ils créeront peut-être des emplois.
Peut-être, j'aime bien le peut-être, oui, c'est ça qu'il faut. Donc avec face à tous ces peut-être et ces négociations à la baisse, donc les chômeurs et les intermittents et précaires ne sont pas restés l'arme au pied.
Dès qu'on a su dans quelle mesure le patronat voulait réduire considérablement les droits, c'était en février 2014, on a eu les annonces après les quelques rounds d'observation, comme quoi il fallait des milliards d'économies. Au passage, fallait supprimer l'annexe 4 des intérimaires et supprimer les annexes 8 et 10.
Ah oui, d'accord, carrément
supprimé. C'était comme ça. C'était pas dit comme ça. C'était on aligne les annexes sur le régime général. Donc c'est une suppression. Voilà, c'est clair. Tout ça a été un casus belli et très rapidement, on a appelé à des mobilisations et on s'est retrouvé à 10 000 devant le MEDEF et il y avait des manifestations dans 22 villes en France. Ce qui était une mobilisation en février 2014 que même nous, on n'espérait pas aussi massive.
D'accord.
Et donc du coup, les baisses ont été beaucoup plus limitées. Ils ont été surpris de la réaction, évidemment, mais il y a quand même eu des économies très importantes de fait sur le dos des chômeurs, puisqu'on est quand même arrivé à 800 millions d'euros d'économies par an sur l'ensemble des dépenses liées au chômage. Et donc, ça s'est retrouvé, comme il n'y a eu strictement aucune augmentation de cotisation du tout, c'est forcément aucune recette nouvelle, ce ne sont que des baisses de dépenses, donc des baisses d'indemnisation, qui sont réparties sur l'ensemble des demandeurs d'emploi. Ceux qu'on a pris le plus dans la figure, ce sont les intérimaires, puisqu'on les a alignés sur le régime général sans tenir compte de la discontinuité de l'emploi là en particulier, et les intermittents, où il y a eu une baisse que nous avons réussi à contrer, puisqu'on a oublié obligé le gouvernement, sous la menace des grèves dans les festivals d'été, à prendre en charge cette baisse et à revoir et à créer un nouveau processus pour la prochaine négociation, où cette fois-ci, on sera en mesure de défendre nos propositions, ce qui n'avait pas été le cas, puisque en 2014, en gros, on nous dit on n'en a rien à foutre de vos propositions à la CGT. Quoi.
D'accord. Donc ça veut dire qu'au final, les négociations vont se dérouler, on va dire. Le protocole, enfin l'accord, est quand même signé par quelques syndicats.
Voilà, le 22 mars à 0h15, on apprend que... Alors après 12 heures de négociations de couloir, on était dans la salle de négociation au MEDEF, même si on demande à ce que ce soit ailleurs depuis des années, on est tout seul à la CGT à le faire. Alors la FO le dit qu'ils veulent le faire, mais ils viennent toujours, donc bon. Faut qu'ils soient... On verra bien. Alors, en tout cas, on est là-bas. Pendant 12 heures, il y a des négociations sans nous. À minuit et quart, donc à 0h15, on nous présente un texte et la négociation. C'est le texte à prendre ou à laisser. D'ailleurs, ça s'est engueulé très sérieusement au sein du MEDEF, hein, où le négociateur MEDEF s'est fait engueuler par Gattaz parce qu'il n'avait pas obtenu assez d'économies sur le dos des chômeurs. Et donc, on découvre un texte qui n'a pas été négocié par nous.
D'accord. Ah ouais, super. Donc, ce texte est quand même signé par ceux qui ont eu accès à l'avance.
Bah, tout le patronat et puis CFDT, CFTC. Et comme la CGC fait faux bon, c'est FO qui signe.
D'accord. Ah oui, c'est vrai. Il fallait en trouver un.
Ah oui.
Il faut en trouver un, alors on a FO parce qu'il faut.
Voilà. FO, ce coup-ci, s'est retrouvé, alors qu'il était dans les manifs avec nous quelques jours auparavant, à signer la convention assurance chômage. C'est dommage, hein, pour les camarades d'FO, mais c'est la réalité.
Bon, bah écoute, faut qu'ils réfléchissent en interne, alors. Donc, on espère que leur réflexion sera fructueuse. En attendant, vous êtes face à un texte qui est signé, qui va s'appliquer très rapidement, parce qu'en plus...
Alors, c'est un accord de principe, hein, comme souvent les négo interpro, un accord de principe en mars 2014, le 22 mars. Il va se traduire par une convention de 150 pages qui elle-même est signée le 14 mai 2014, même si on arrive à faire bouger quelques trucs à la marge, et on considère que donc à la fois la négociation s'est passée dans des conditions de déloyauté inacceptables, par principe inacceptables, et puis par ailleurs que l'État, c'est-à-dire le ministre du Travail, un certain Rebsamen, le patron de Combrexelle donc, qui l'agrée, c'est-à-dire que la convention, pour qu'elle devienne obligatoire, il faut que le ministre du Travail dise, la signe, fasse une petite procédure et fasse en sorte que ce soit, ça devienne obligatoire. Sans cet agrément, une ministre du Travail, en l'occurrence Martine Debrie, en 2001, avait refusé d'agréer une convention en estimant que c'était pas au signataire de décider des sanctions contre les chômeurs. Je le dis exprès parce que ça va se retrouver dans la suite. Mais sinon, le ministre du Travail dit, les partenaires sociaux, selon le terme consacré, ont bien fait leur travail, donc moi, j'agrée l'accord.
D'accord. Donc l'accord est agréé, mais vous n'en restez pas là, c'est-à-dire déjà vous à la CGT Spectacle, mais d'autres aussi qu'on verra.
Bien sûr, nos amis de la coordination, tout le mouvement unitaire avec différents collectifs se retrouvent dans la lutte avec une grève très forte dès le mois de juin, d'accord, notamment à Montpellier, où on annonce que l'été va pas bien se passer si la convention est agréée telle quelle. Donc, et puis par ailleurs, on mène des recours juridiques qu'on lance dès l'été, à la fois pour déloyauté devant le TGI, cour d'appel, puisqu'on a perdu et maintenant en cassation,
d'accord,
et Conseil d'État, puisque ça, c'est la signature par le ministère du Travail qui est mise en cause.
Alors, on va voir les arguments de chaque partie. Il faut voir que ici, on a deux filières juridiques qu'on va éclaircir. Donc, tu as parlé du TGI, cour d'appel, cour de cassation. Ça, c'est la filière qu'on va appeler civile, qui examine donc la qualité de l'accord entre les parties.
Hein? Exactement. Et c'est là où on avance que la déloyauté des négociations a été patente. Bon, le tribunal, ni le TGI ni la cour d'appel ne réagissent à nos preuves, nous disent non, on fait pas la preuve de la déloyauté. C'est comme ça qu'ils nous balayent. Pourtant, on amène des documents tombés du camion, comme quoi des documents qui avaient été fournis à d'autres et pas nous dans la négociation.
Par d'accord, exemple, tout le monde n'a pas eu les mêmes documents.
Des documents de l'UNEDIC datés du 20 mars, donc deux jours avant la négociation, qui ont été donnés à certains que nous n'avons pas eu, qui concernent les intermittents en particulier, que nous n'avons pas eu à la CGT, que nous découvrons une fois que la négociation est terminée.
Donc on vous demandait juste de venir pour signer, quoi.
En tout cas, on nous demandait de venir pour pas faire de bruit et on en a fait beaucoup.
D'accord, dommage pour eux. Donc ça, c'est le côté civil sur la qualité de la négociation, la qualité de l'accord. Ok. Ensuite, vous attaquez également au niveau administratif, c'est-à-dire devant le Conseil d'État. Et là, c'est quoi le biais que vous utilisez ?
Alors là, il y a plusieurs biais. D'abord, on est plusieurs. Hein. Il y a du côté CGT, il y a CGT Spectacle. Alors la Confédération CGT qui porte le recours, la CGT Spectacle, l'intérim CGT, et puis pas mal de collectifs, la CIP, le collectif des intermittentes, Sud Spectacle, différents collectifs, le syndicat des avocats de France, etc., etc., et des mouvements de chômeurs. Donc on y va tous avec les mêmes avocats et on attaque à la fois sur la déloyauté de négociation. Nous, on est têtu, bon. Sur ce point-là, on n'a pas eu raison en Conseil d'État, mais le rapporteur a dit quand même, il y a un sérieux doute, on verra bien ce que dira la cassation, c'est intéressant. C'est pas terminé. Et puis, sur le fond de la convention assurance chômage, qui est que on estime qu'il y a un grand nombre de dispositions qui sont illégales, notamment le contrôle des chômeurs, les sanctions qui sont décidées par la convention UNEDIC et par Pôle emploi, et un certain nombre de dispositions sur lesquelles on va essayer d'obtenir raison, et le Conseil d'État. Donc en octobre, statue, il nous donne une réponse où il nous donne, sur une partie des arguments, raison.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris le raisonnement, les partenaires sociaux, puisqu'on utilise ce terme, les partenaires sociaux se sont donné des pouvoirs du législateur, en fait, c'est ça ?
Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, les sanctions. C'est le motif pour lequel Martine Aubry avait refusé d'agréer la convention sur le PAR à l'époque. Ça revient par la porte. On dit le chômeur, qui est toujours forcément un fraudeur, hein, comme tout assuré
bien
social, s'il n'a pas bien déclaré, c'est donc une fraude. On reconnaît pas sa bonne foi, c'est une fraude, et donc on va le sanctionner, et on va pas simplement lui coller une amende ou le dénoncer à la police, qui est un fraudeur, il faut le dénoncer à la justice et à la police, normalement. Non, on va le sanctionner nous-mêmes, on va nous-mêmes se considérer qu'on est juge et parti, et on va lui piquer les allocations.
D'accord.
On va lui demander de rembourser sur 3 ans, éventuellement, tout ce qu'on lui a déjà versé.
Ouais. Alors déjà, Pôle emploi avait le pouvoir de suspendre le versement des allocations, mais c'était pour reprendre plus tard, éventuellement, quand le chômeur avait réussi à faire la preuve de qu'il était revenu dans les clous.
Ouais.
Alors que là, on lui retire de l'argent, c'est ça ?
Ouais, on lui réclame de l'argent qu'on lui a déjà versé. On peut lui refuser l'indemnisation et on peut lui reprendre ce qu'on lui a déjà versé 3 ans en arrière. Donc et puis par ailleurs, allons sur la décision du Conseil d'État, parce qu'on peut pas faire tout ce sur quoi on a attaqué, mais le Conseil d'État nous donne raison sur plusieurs points. Un, il dit les recours que fait un demandeur d'emploi contre Pôle emploi doivent être suspensifs. C'est-à-dire que la personne à qui on dit « on te réclame 10 000 euros » et hop, on commence à te les prendre sur tes prochaines allocations, la personne dit « non, mais moi je veux comprendre le calcul déjà.
Ouais. »
Et puis c'est pas vrai, il y a une erreur là. Hein. Ouais. Donc déjà il dit « je conteste ça maintenant depuis le 5 octobre
ouais. ».
Et ben ça veut dire qu'on arrête tout de suite de lui prélever les allocations, les indus, les trop perçus, ce genre
d'accord.
de choses. C'est quand même...
Il faut attendre ce qu'on appelle l'épuisement des voies
des
et
recours.
De la...
Ça d'accord. veut pas dire que si les recours sont une fois qu'ils sont épuisés et que l'indu est justifié, enfin, selon les règles, enfin, il respecte les règles, eh bien, là, l'indu va être prélevé. Mais, comme Pôle emploi va avoir du mal à justifier, comme il le fait en 4 lignes, tous ces indus, il y en a un certain nombre qui ne seront... jamais réclamé.
D'accord.
Et puis, il faut savoir, par exemple, que c'est des situations dans lesquelles de nombreux demandeurs d'emploi sont retrouvés dans des situations très, très graves.
Ouais.
Et c'est, par exemple, ce qui a conduit Jamel Char à s'immoler par le feu à un pôle emploi à Nantes il y a quelques années, en 2011, si je ne dis pas de bêtises, parce que, justement, on lui avait refusé, on l'avait récupéré les allocations et qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas ses droits ouverts.
Ah oui, donc il y a ça.
Ça c'est le point sur les indus, les suspensions, les recours suspensifs. Il y a un autre point qui dit que si on a oublié de déclarer des jours, ce qui arrive certains mois, surtout quand ton employeur t'a pas filé ta fiche de paye et autres sur des petits boulots, des choses comme ça, tu peux. Les périodes non déclarées, c'est pas une fraude. Tu ne peux pas être sanctionné pour ça. Il faut régulariser, c'est tout. C'est un peu plus compliqué que ça. Je fais
d'accord.
Vite.
Si on s'est trompé, on a la possibilité de dire je me suis trompé. Je vous donne les documents qui me sont pas arrivés ou que je n'ai pas mis dans le lot
et que j'ai eu après ou autre.
J'ai eu après. Donc là, vous recalculez dans mon sens.
Exactement.
Et pas dans le, nécessairement dans le sens de je me suis trompé, donc on m'enlève de l'argent.
Voilà. Et puis le troisième point, alors là c'est un tout petit peu technique, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais qui fait que la convention va être annulée au 1er mars 2014,
d'accord,
parce que ça l'emporte, c'est ça qui emporte le truc, c'est qu'il avait été institué un système assez malin, hein, c'était de dire la personne qui part avec une indemnité supralégale, c'est-à-dire elle est licenciée, mais elle obtient plus que le minimum prévu par le Code du travail parce qu'elle a réussi à obtenir, parce qu'il y a eu un combat par exemple dans l'entreprise et puis qu'il y a
ou
eu...
Qu'il a gagné au prud'homme.
Ou qu'il a gagné au prud'homme, exactement, et c'est important, il obtient un peu plus. Et ben là, pour, la convention inédite disait, dans ces cas-là, vous allez vivre là-dessus et vous n'aurez pas d'allocation chômage jusqu'à 6 mois.
Il reportait le démarrage.
Voilà.
C'est ça.
Exactement.
Ah, vous l'avez tapé celui-là, ça y est.
Ça
a sauté.
Ça a sauté.
Ah, vous avez bien fait, camarade. Vous
ça,
avez très bien fait.
C'est sur une question de droit, c'est de dire, quand il y a une réparation d'un préjudice obtenu au prud'homme, par exemple pour licenciement abusif, c'est pas un revenu qu'on peut capter.
Non.
Pour dire c'est du revenu de remplacement, c'est d'une réparation de préjudice. Alors ça fout le bazar parce que dans le système, tu peux pas savoir si oui ou non, souvent dans les jugements, si c'est tout ce qui relève du préjudice, qui relève et autres, ou en tout cas ça obligerait Pôle emploi à aller voir toutes les décisions de justice et autres. Enfin du coup cette décision est complètement annulée.
Oui.
Et ça c'était une mesure qui faisait ça, beaucoup d'économies.
C'était absolument unique. On en a parlé dans cette même émission. Effectivement, je m'en rappelle très bien. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que le salarié pouvait gagner au prud'homme qui n'était pas stricto sensu son indemnité de licenciement, ça lui était capté par Pôle emploi par ce mécanisme de retard de démarrage d'indemnisation.
Oui.
On se demandait si les salariés allaient juste aller au prud'homme pour l'honneur et surtout pas pour gagner quelque chose. Ça, je suis très content de l'apprendre parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait retourné quand c'était sorti. Et donc, ça fait partie des dispositions.
Et c'est ce qui fait que alors, le Conseil d'État donne un petit délai aux signataires pour pas avoir à recalculer, à rembourser des sommes intérêts publics, soi-disant. Mais donc, ce qui fait qu'au lieu que la convention s'achève au 30 juin de l'année prochaine, 2016, elle s'achève avant le 1er mars 2016. Ce qui fait que la réplique des signataires et de la ministre du Travail qui a remplacé Rebsamen, c'est de dire bon, c'est juste un ajustement technique, on va faire une nouvelle convention pour 4 mois et puis la négociation elle aura quand même lieu. Alors ça, il faut en parler. Le gros dossier, ça va être la prochaine négociation.
D'accord. Eh ben, on en reparlera effectivement, et on en parlera aussi avec Hélène sur ce qu'on a réussi à stopper avec cette convention unédique qu'on fait sauter. Et là, je vais pouvoir la placer. On aime vraiment, vraiment, que ce soit pour le droit des étrangers ou pour les chômeurs, on n'aime pas votre soupe. Ok, donc nous sommes de retour après avoir rejeté la soupe de Combrexel, de l'UNEDIC et du MEDEF. Donc nous sommes de retour sur Radio Fréquence Paris Pluriel pour Secret de Fabrication, donc l'émission animée par des inspecteurs du travail et des agents de Pôle emploi. Et nous sommes donc en attente de l'appel de Hélène. Hélène ? Tu nous reçois.
Tout à fait.
Donc dans la salle, j'ai Denis que tu
connais.
Bonsoir
Hélène.
Bonsoir.
Donc voilà, Hélène, donc tu es du je te présente, tu es du collectif des matermitantes.
En effet.
OK. Alors il faudrait que tu nous présentes ton collectif, quel est le but du collectif des matermitantes? Quand est-ce qu'il s'est créé déjà?
Alors le collectif des matermitantes s'est créé en 2010. Son but, c'est de rassembler des femmes qui vivent des ruptures d'indemnisation liées à leur congé maternité.
C'est ça. Donc le congé maternité pour les intermittentes est un potentiel risque, en fait.
Alors on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que pour les femmes intermittentes, donc qui alternent des périodes de travail et de chômage, elles peuvent parfois ne pas avoir les heures le nombre d'heures demandées pour pouvoir ouvrir le droit à l'indemnisation de leur congé maternité.
Alors, elles se retrouvent à démarrer un congé de maternité et ne pas être indemnisées par la Sécurité sociale.
C'est ça, c'est-à-dire que le congé maternité peut provoquer une rupture de revenus au moment où, effectivement, elles en ont le plus besoin.
Mais c'est quoi ce mécanisme de ouf, là? Ça marche comment? Comment on se retrouve à débuter son congé maternité et d'un coup, boum, les indemnités des journalières, elles disparaissent?
Bah, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des femmes intermittentes donc, sont indemnisées par l'assurance chômage quand elles ne sont pas sous contrat de travail.
D'accord.
Et donc, lorsqu'elles prennent un congé maternité ou maladie, elles dépendent alors de la caisse de l'assurance de la sécurité sociale. Et donc, la sécurité sociale a disons, un règlement qui n'est pas adapté du tout à la discontinuité de l'emploi. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une réglementation qui est fondée quand même à la fois sur le plein emploi et sur le CDI.
Ouais.
Et du coup, on peut se retrouver sans indemnisation du congé maternité. Voilà. Donc c'est assez aléatoire, c'est-à-dire que la plupart des femmes remplissent les conditions d'indemnisation, c'est-à-dire le seuil, le nombre d'heures qu'il est nécessaire d'avoir cotisé pour pouvoir ouvrir des droits,
ouais.
Mais elles n'ont pas effectué ce travail sur la période observée par l'assurance maladie.
Donc l'assurance maladie observe une période. Alors, faut que tu nous expliques ça. C'est-à-dire que quand ton congé démarre, qu'est-ce que fait l'assurance maladie? Comment elle calcule?
Alors, il y a plusieurs manières d'observer les droits. D'abord, on regarde juste avant le congé maternité, dans les 3 mois qui précèdent le congé maternité ou dans les 3 mois qui précèdent le début de grossesse. Donc, on peut regarder cette condition qui est une règle générale pour l'ensemble des salariés, qu'ils soient en CDI ou en CDD. Et l'autre condition alternative, c'est de regarder dans les 12 derniers mois qui précèdent ou soit le début de grossesse ou soit le début de congé maternité.
D'accord. Donc c'est, voilà. C'est ce qu'on appelle, alors c'est ce que nous on appelle des périodes flottantes en fait. C'est-à-dire qu'on on part du moment où on demande le droit et on regarde en arrière pour bah, soit 3 mois, soit 12 mois et on regarde ce qu'il y a dedans.
Exactement. Mmh. Voilà. Et il se trouve que dans ces périodes-là, bah, c'est souvent des périodes, enfin les moments de maternité sont souvent des périodes qui donnent moins lieu à du travail. Hein, surtout pour des personnes qui travaillent avec leur corps, que ce soit des danseuses, acrobates ou comédiennes.
D'accord, et oui,
donc,
c'est ça.
Effectivement, il y a
ou techniciennes qui portent des caisses.
Ou techniciennes qui portent des caisses. Mais de manière générale, moi, ce que j'avais compris, hein, je t'interromps, mais j'ai un truc, c'est que c'est une femme qui est en CDI, qui tombe enceinte, elle va continuer à travailler jusqu'au début de son congé maternité.
Tout à fait.
Bien, mais une femme intermittente. Quand elle n'est pas au travail, elle est en train de chercher du travail.
Tout à fait.
D'accord. Donc, mais l'état de grossesse n'aide pas, c'est un pléonasme, enfin un euphémisme, pardon, n'aide pas à chercher du travail. C'est plus difficile, c'est ça?
Bah, de fait.
Même si c'est pas une trapéziste ou une danseuse.
Ouais. De fait, c'est de toute façon plus difficile d'en trouver et c'est de toute façon plus difficile d'en faire.
Bah oui.
Effectivement, d'exercer une activité à ce moment-là. Voilà. Et là, on parle. Pour les périodes qui précèdent le congé maternité, mais sur les périodes qui succèdent au congé maternité, c'est aussi extrêmement difficile de revenir dans le réseau. C'est long de revenir dès qu'on quitte en fait l'activité régulière qu'on a ou plus ou moins voilà dispatchée dans le temps qu'on a. Un congé maternité interrompt en fait toute une activité, toute une relation au réseau professionnel qui fait qu'à l'issue du congé maternité, les choses sont bien plus difficiles, quoi.
Voilà. Oui, donc c'est ça, oui, c'est une chose qui est très importante à savoir pour des gens qui ont l'habitude du CDI. Alors moi, je suis fonctionnaire, alors tu imagines bien que...
Oh, encore un privilégié.
Non, mais c'est ça, donc moi je comprends absolument rien à tout ça, mais bon, j'essaie de m'imaginer, quand on est intermittent, une partie du boulot, c'est de trouver du boulot, c'est ça, hein?
Bah, effectivement, oui.
Donc, il faut entretenir un réseau, il faut rester en contact.
Voilà. Mmh. Ça.
D'accord.
Et donc, la difficulté, évidemment, quand il y a une interruption de période de travail très forte liée à une maladie ou une maternité, évidemment, c'est de se réinsérer dans un réseau. Donc, d'une part, il y a des problèmes pour obtenir des contrats à l'issue d'un congé maternité, mais il y en a aussi avant. Donc ça c'est une réalité. Après, la plupart, encore une fois, la plupart des femmes qui travaillent avant un congé maternité remplissent les conditions d'ouverture de droit. Simplement, l'observation des périodes, je le répète, ne se fait pas sur les périodes travaillées, mais sur les critères des 3 mois qui précèdent le congé maternité ou le début de grossesse. Donc c'est complètement aléatoire.
Quand tu m'avais expliqué ça, moi j'avais une remarque qui m'avait frappé, c'est que c'est exactement le même mécanisme avec lequel on déboute les sans-papiers.
Ouais.
C'est impressionnant. C'est-à-dire que pour le débouter de la régularisation, on calcule en arrière, à partir de la demande, tant de mois de travail prouvés sur les 12 ou les 24 derniers mois. Et ça, ces périodes flottantes-là, ça sert essentiellement à refuser les droits, en fait. Parce que c'est impossible à calculer correctement. Alors, il y avait un autre point, c'est ça, c'est les indus et les recalculés. Et ça, c'est autre chose encore.
Alors, les indus et les recalculés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a créé le collectif des matermittentes parce qu'il y avait certaines femmes qui étaient donc pas indemnisées pour leur congé maternité.
D'accord.
Et d'autres qui, en 2008, se sont retrouvées recalculées, donc qui se sont autonommées, les recalculées, parce que il y a eu un changement de paramétrage dans les logiciels d'indemnisation de Pôle emploi et qui a fait qu'elles ont eu des prestations, enfin des allocations chômage versées indûment, mais sauf qu'elles avaient aucune possibilité de s'en rendre compte.
C'est brasile, ce truc.
Voilà, donc en fait, c'est toutes les femmes qui sont retrouvées en congé maternité à ce moment-là et qui ensuite sont retournées s'inscrire à Pôle emploi et ont été à nouveau indemnisées par l'assurance chômage, ont donc se sont retrouvés avec des indus importants. Donc le collectif, il s'est monté sur cette base-là, parce qu'il faut bien comprendre aussi que, donc d'une part, il y a cette histoire de rupture de droit au moment du congé maternité, mais il y a aussi la question de l'indemnisation à l'issue du congé maternité. Puisque, alors c'est encore une fois un peu technique, mais le congé maternité, en fait, compte à raison de 5 heures par jour.
D'accord.
S'il est indemnisé par la Sécu.
Oui, voilà, d'accord.
S'il est indemnisé par la Sécu.
Et double donc, peine.
Pardon ?
Double peine.
Donc ça induit mécaniquement, si vous voulez, une baisse du montant de l'allocation journalière de Pôle emploi. C'est-à-dire que, de toute façon, quand on a un congé maternité et qu'on est intermittent du spectacle indemnisé par Pôle emploi, à l'issue d'un congé maternité, on a une baisse de revenus de 30 à 50%.
Oui, parce que si j'ai bien compris, l'heure qu'on te compte ne vaut rien.
C'est ça, c'est une heure qualifiée, qu'on appelle à taux zéro.
C'est ça, voilà. À taux zéro, j'adore.
C'est un nombre d'heures.
C'est comme si tu avais travaillé sans être payé.
Voilà, c'est ça. Non, mais ça veut dire qu'en fait, dans la logique de Pôle emploi, c'est l'inverse du dicton « la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». C'est « rien ne vaut de donner la vie, mais donner la vie, ça vaut rien ».
D'accord.
C'est ça, selon Pôle emploi, quoi.
C'est la logique de la convention UNEDIC. J'ai juste une petite précision, Hélène, de rajouter. Mais encore une fois, il faut voir que l'UNEDIC, c'est le prescripteur qui dit comment on va être payé. Avant, tout le monde savait ce que c'était que la CEDIC. Ça a disparu dans Pôle emploi. Mais Pôle emploi, c'est l'opérateur. Ils font qu'appliquer la règle qui a été décidée à l'UNEDIC. Il ne faut quand même pas l'oublier.
D'où l'importance
même
de l'accord.
Même s'ils le font avec beaucoup de zèle.
D'où l'importance de l'accord. Et donc, d'où l'importance, comme on en discutait avec Denis, de monter au créneau et de se battre contre l'accord. Bon, donc il nous reste un peu de temps pour dire. Je voulais savoir un peu. Donc, comment vous avez procédé? C'est quoi les étapes? Qui vous avez saisi? Comment vous avez fait un travail institutionnel? Denis a déjà parlé un peu de la mobilisation préalable. Après, vous avez dû rentrer dans le sujet. Comment vous avez procédé pour rentrer dans le sujet du côté juridique, et qu'est-ce que vous avez fait en termes de procédure, quoi?
C'est-à-dire que nous, enfin du côté du collectif, on avait déjà travaillé et interpellé le défenseur des droits sur cette question-là 3 ans plus tôt. Donc on savait aussi, donc le défenseur des droits qui a jugé discriminatoire la situation cette femme en cas de congé maternité, des intermittentes du spectacle. Et donc on avait comme ça un travail déjà engagé sur le plan juridique.
D'accord.
Donc quand la question de la convention, de la nouvelle convention UNEDIC s'est posé, on a lu le texte et on s'est rendu compte que malgré la décision du défenseur des droits qui était intervenu donc en 2012, le texte ne changeait pas ses conditions d'accès.
D'accord.
Enfin, voilà. Enfin, c'est pas les conditions d'accès, mais c'est les conditions.
C'était les poursuites.
À l'issue, d'un congé maternité. Donc, pour le coup, nous, ce qui nous semblait être un motif d'attaque, c'était le fait que le défenseur avait donné une décision et interpellé l'UNEDIC sur le caractère discriminatoire de ces dispositions et que la convention 2014 n'avait pas donné lieu à une modification.
C'est ça. Ils n'avaient rien réglé, en fait, sur ce que vous avez déjà souligné.
Voilà. Donc, nous, évidemment, comme on n'est pas, on n'est pas un syndicat, on n'est pas, voilà, on ne peut pas mobiliser dans la rue, on n'a pas tout ce travail-là. Mais par contre, on peut travailler sur les textes et attaquer de ce biais. Et du coup, c'est vraiment un endroit qui nous semblait en plus totalement complémentaire et important. Et puis, voilà, cette idée que, puisque de toute façon, cette condition, c'est-à-dire que là, il y avait aussi, enfin, moi, je caressais l'idée que, du fait de, les conditions d'emploi de l'intermittence, c'est donc, une alternance de contrat de travail et de situation de chômage. Donc, ce n'est pas que ça ne concerne pas que les intermittents en soi.
Non.
C'est-à-dire que ça peut potentiellement concerner l'ensemble des CDD. Moi, donc, je caressais l'idée de pouvoir soulever cette idée de discrimination à l'endroit des congés maternité et maladie pour l'ensemble des chômeurs.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Et donc, me disant, ce point-là, finalement, traverse la convention UNEDIC, si tant est qu'on le fait reconnaître. Et donc, pour moi, c'est un motif pour attaquer.
Ouais.
Et du coup, comment ça s'est passé? On a d'abord été voir l'avocate avec laquelle on travaille régulièrement et qui gagne régulièrement les procès contre la sécurité sociale, et qui nous a fait rencontrer donc Thomas Liancan, qui lui pouvait plaider
d'accord.
au Conseil d'État. Alors au départ, on s'est posé la question de faire une QPC, etc. Et puis finalement,
vous l'avez pas retenu.
Non, c'est-à-dire que c'était pas, manifestement, c'était pas.
Pas d'actualité, d'accord.
Voilà.
Je t'interromps juste pour. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Je sais, c'est court. je voulais juste conclure. Ce que je vois là, moi, ce que on avait commencé l'émission en parlant de comment nous, à l'inspection du travail, on avait saisi le Bureau international du travail sur un sujet qui nous tenait à cœur. Comment ils nous avaient donné raison, ce qui a moins eu d'impact que votre saisine, mais que ça nous a permis nous de résister. Et là, je vois que d'une part, Denis donc nous a expliqué un certain nombre de points de flèches qui ont été plantées dans la convention UNEDIC, notamment du fait qu'il a pu surveiller la négociation et considérer qu'elle affaiblissait, on va dire, la résistance du texte. Vous, de votre côté, vous avez soulevé des points qui étaient déjà jugés discriminatoires avant même qu'ils passent la convention 2014. Vous avez vu qu'ils avaient été maintenus, donc votre travail préalable a payé de ce côté-là. Donc on voit bien que en unissant les forces et en chacun sur sa thématique, mais en même temps en mettant au pot commun, vous avez pu avoir raison de la bête, quoi.
Exactement. Exactement. C'était aussi le sens de la démarche, essayer effectivement qu'on travaille ensemble depuis des points différents.
Voilà.
Et d'autant plus que c'est pas terminé, puisque la convention 2014, elle se termine bientôt et qu'il y aura la convention 2016.
Voilà, ok. Donc de nouvelles occasions de prendre la rue, c'est ça?
Et d'essayer de gagner des droits.
On va gagner des droits. Allez, on va gagner des droits. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Hélène.
Merci
pour ton coup de fil.
Merci à vous.
Et puis, on les aura. Mais déjà, la bête est à terre, là. Hein, donc, faut pas la laisser se relever.
Provisoirement,
mais faut pas la laisser se relever.
Provisoirement, oui. Allez, bonne soirée.
Bonne soirée.
Ciao.
Au revoir.
À tous ceux qui sont motivés. Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté par le passé.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?